Vous écoutez
RMC.
Bon réveil et bienvenue sur RMC et RMC Story. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. C'est une seconde nuit calme qui se termine en Gironde avec un incendie à nouveau stabilisé. Environ 60 000 habitants de trois communes peuvent désormais regagner leur domicile. Reportage dès le début de ce journal. Des pompiers sur le qui-vive au matin d'une journée qui s'annonce extrêmement chaude. Vigilance orange canicule en Gironde et dans les Landes. Et puis Zinedine Zidane au premier jour de son rêve, officiellement sélectionneur des Bleus. On se penchera sur son style et sa méthode.
Il y a donc de bonnes nouvelles sur le front de l'incendie ce matin. Des dizaines de milliers d'habitants de Gironde ont été autorisés à rentrer chez eux.
Environ 60 000 évacués il y a 4 jours à cause de l'incendie toujours en cours autour du bassin d'Arcachon. Les habitants du Haillan, de Mérignac et d'Eysines près de Bordeaux peuvent désormais regagner leur domicile, a annoncé hier soir la préfète du département, à condition d'être prêts à évacuer à nouveau. Et ces habitants du Haillan vont donc pouvoir souffler, Justin Adel.
À peine le feu vert des autorités donné, Fabien n'a pas hésité.
Tout de suite, je suis revenu.
Un retour attendu avec impatience depuis 4 jours.
Ça soulage un petit peu quand même de savoir qu'on peut rentrer chez soi et pouvoir passer une nuit tranquille déjà chez moi, retrouver mes petits meubles et tout ça.
Pourtant, l'anxiété persiste.
Le feu, il est toujours là, les fumées sont encore présentes. On n'est pas à l'abri d'une alerte comme il y a eu dans la nuit de vendredi à samedi d'évacuation.
Malgré ce risque, Régis a lui aussi fait le choix de rentrer.
Ça fait du bien de revenir à la maison, mais bon, on reste quand même prudent, hein, puisqu'on a entendu la préfète et les deux conditions qui sont liées à notre retour, mais ouais, ça fait du bien.
En effet, la préfecture demande aux habitants de garder leur téléphone allumé pour être alertés en cas de nouvelle évacuation. Ils doivent également avoir un sac prêt pour partir. Régis comprend ce retour sous conditions.
On va être quand même vigilant. Puis si vraiment la préfète nous demande de repartir, on a joué le jeu, hein, on est parti. Voilà, on revient là, au bout de 4 jours. Donc s'il faut rejouer le jeu, on rejouera le jeu. Quoi.
Il se dit chanceux car, contrairement à d'autres habitants du département, il a pu retrouver sa maison intacte.
Et dans le même temps, à quelques kilomètres à Lacanau, 4000 touristes ont été évacués préventivement hier. L'incendie qui est donc de nouveau stabilisé ce matin. On fait le point en direct avec vous, Rachel Sadodine. Pour l'heure, le feu ne progresse plus.
Oui, l'incendie est toujours actif, mais vous le disiez, Clara, il est stable. Les pompiers ont réussi à traiter rapidement toutes les reprises de feu. La préfète de Gironde a donc autorisé les habitants, on l'entendait à l'instant, des communes d'Eysines, de Mérignac et du Haillan à rentrer chez eux, à condition bien sûr de garder leur téléphone allumé et d'avoir toujours un sac prêt en cas de nouvelle évacuation. Les restrictions de circulation restent inchangée, avec notamment la fermeture de l'autoroute entre Bordeaux et le Pays Basque. Toujours aucun TGV au sud de Bordeaux, à part en direction d'Agen et de Toulouse. Des assouplissements, des restrictions en ce qui concerne les manifestations sportives et culturelles. Elles sont désormais autorisées au nord de la Garonne, mais toujours pas au sud. 2700 sapeurs-pompiers continuent de lutter contre les flammes. 126 ont été blessés depuis le début de cet incendie en Gironde, qui a déjà détruit 240 maisons.
Précision de Rachel Sadodine. Les pompiers vont devoir redoubler d'attention aujourd'hui à cause de la chaleur. Nouvel épisode de canicule qui commence. 16 départements en vigilance orange à partir de midi, dont la Gironde, Charlène Villemer. Le pic de chaleur sera particulièrement fort dans ce département aujourd'hui.
Et oui, jusqu'à 41 degrés à Mont-de-Marsan, 40 près de Bordeaux et 38 sur le littoral. Des températures caniculaires auxquelles s'ajoutent des vents toujours changeants en direction du Lèche-Cap et Lacanau ce matin. Nouvelle bascule à la mi-journée avec cette brise marine d'ouest, cette fois qui soufflera vers Marcheprime et Bordeaux à 50 km/h, ce qui est défavorable et peut favoriser de nouveaux départs de feu. Canicule et vent, un cocktail explosif donc, est particulièrement risqué là où le feu est encore actif. Plus largement, le risque incendie est généralisé aujourd'hui. 65 départements sont en risque élevé, des Hauts-de-France jusqu'à la Méditerranée, en passant par les bords de Gironde.
Merci beaucoup, Charlène Villemer.
Et pourtant, malgré l'incendie, le ministre du Commerce et du Tourisme appelle à ne pas reporter ses vacances en Gironde.
La saison n'est pas terminée, insiste Serge Papin face à l'inquiétude des professionnels du secteur. On y va et on y retourne, façon de les soutenir, dit-il. Le gouvernement qui rétropédale face aux conséquences économiques à venir, après avoir appelé les Français à ne pas se rendre en Gironde, car les professionnels sur place sont toujours très inquiets, Martin Juret.
Sur place, près du lac de Carcan, les tables en terrasse sont dressées, les snacks ont ouvert, mais l'endroit est désert. Depuis le début de l'incendie, les touristes sont aux abonnés absents. Dans son snack, Laetitia s'était préparée au coup de feu de fin juillet, 20 000 euros d'investis.
On a l'argent dehors parce qu'on avait commandé une grosse commande, sauf que les factures restent en attente. Parce qu'on se demande comment on peut s'en sortir
de tout ça.
La suite de la saison, sans espoir pour elle, même si le gouvernement a tenté de tempérer l'appel de la préfète de Gironde qui incitait les touristes à renoncer à leurs vacances dans le département. Ce restaurateur qui affiche lui aussi salle vide est écœuré.
Bien sûr qu'on l'avait fait. Bien sûr qu'on l'avait fait. De toute façon, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Si ça évolue toujours dans le même sens, je vais être obligé de délester la moitié de mon perso. C'est des bons gamins. Mais bon, je peux pas faire autrement.
D'autres ne lâchent rien. C'est le cas d'Alexia. Elle reçoit régulièrement des appels d'Aoussiens inquiets dans son camping.
Alors nous, on leur dit oui, effectivement, on leur donne les conseils de comment on peut venir chez nous.
L'objectif, c'est quoi?
C'est de les rassurer, de leur dire qu'on est ouvert.
Les professionnels espèrent en tout cas être indemnisés pour leur perte d'exploitation après l'incendie.
Dans le Var, après 8 jours, l'incendie parti du Gros Bessillon est enfin fixé. Il n'est pas encore éteint. Et un homme de 23 ans a été placé en détention provisoire, mis en examen. Maxime Clieruza, service police-justice d'RMC, il est soupçonné d'être à l'origine d'une dizaine de mises à feu, notamment des reprises de feu.
Oui, 23 ans, sans emploi, il venait de s'installer dans la région le mois dernier. Il n'avait aucun antécédent judiciaire lié à ce type de fait. Selon les gendarmes, c'est grâce aux images de vidéoprotection que ce jeune homme a pu être retrouvé, puis interpellé à son domicile. Il est soupçonné d'être à l'origine d'une dizaine de départs de feu en l'espace de 5 jours, notamment dans les communes de Brignoles, Cabas et Vin-sur-Caramy. Des feux qui ont entraîné la destruction de plusieurs hectares de maquis et de forêts, toujours selon les gendarmes. L'incendiaire présumé a depuis été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Draguignan et devra prochainement passer un examen psychiatrique. Il encourt jusqu'à 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
Et depuis début juillet, ce sont 184 personnes qui ont été interpellées en lien avec ces incendies. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.
Et RMC donc bouscule ses programmes tout au long de la matinée. Aujourd'hui jusqu'à midi, opération standard ouvert au 32-16. On attend vos témoignages si vous êtes dans le Var, si vous avez vécu ces incendies depuis une semaine. Et évidemment en Gironde où ça n'est toujours pas réglé. Si vous faites partie des évacués, des entreprises impactées ou si vous voulez tout simplement donner un coup de main, proposer votre aide dans cet élan de solidarité qu'on constate depuis plusieurs jours. Vous nous appelez au 32-16, vous nous écrivez sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424.
Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui avait demandé à tous les parquets de France de réexaminer toutes les plaintes et procédures pour violences sexuelles sur mineurs. C'était dans le sillage, rappelez-vous, de l'affaire Liana. Près de 2 mois plus tard, il annonce que 924 personnes ont été incarcérées pour de tels faits. Une hausse de 134%, dit-il, par rapport à la normale. À Orange, dans le Vaucluse, une enquête est ouverte pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans après la découverte dans un appartement de la ville du corps d'un nouveau-né et d'ossements de 4 nourrissons, découvertes faites par le père de cette famille après que sa femme a accouché chez elle avant d'être transportée à l'hôpital. Il s'est dit troublé après avoir découvert une nouvelle fois très tardivement sa grossesse et aurait donc ensuite entrepris des recherches chez lui. La mère de famille n'a pas encore été entendue.
Il est 7h08 sur RMC. Vous l'avez vécu en direct sur notre antenne hier, l'émotion de Zinedine Zidane pour sa toute première conférence de presse en tant que sélectionneur des Bleus.
C'était son rêve et il le réalise donc et il doit désormais surtout composer son staff. Zizou qui suscite déjà beaucoup de curiosité. Antoine Brard sur le style de jeu qu'il adoptera.
À peine arrivé, Zidane veut mettre sa patte par rapport à l'air Didier Deschamps.
Dédé c'est Dédé, Zizou c'est Zizou et je vais essayer de faire ce que je sais faire.
Et pour ça, il compte bien s'inspirer de son passé de joueur.
J'étais un numéro 10. Ce qui m'anime, c'est d'aller marquer des buts. Ce qui m'anime, c'est le jeu.
Mais pour le consultant RMC Sport, Jean-Michel Larquet, la qualité de jeu proposée par Zidane va d'abord dépendre des joueurs à disposition, notamment au milieu de terrain.
Pour être plus audacieux, il faut avoir les éléments. Or, aujourd'hui, je le répète, les 4 de devant, c'est magnifique. Derrière, ça se gâte très rapidement. Hein.
Du jeu ou pas, qu'importe. Daniel Riolo, autre consultant RMC, estime que ce n'est pas là-dessus qu'on attend Zidane.
Zidane, c'est pas tellement un homme de vision. C'est un pragmatique, quelqu'un qui veut gagner, qui sait gagner, qui bénéficie d'une aura tellement puissante que les joueurs vont se donner sans retenue.
Et pour avoir une idée plus précise du style de jeu de Zizou, il faudra attendre le prochain rassemblement des Bleus le 21 septembre prochain.
Et puis Pierre Sage a retrouvé hier ses anciens joueurs, Lançois. Il est désormais entraîneur, vous le savez, de Crystal Palace. Les deux équipes s'affrontaient en match amical en Italie, partie de 45 minutes, pendant laquelle les 100 et or ont surclassé les Londoniens. Victoire 3-0.
Clara Gabillet pour le journal sur RMC, RMC Story. Il est 7h10 et on va repartir en Gironde. Nous sommes en ligne en direct ce matin avec le maire de la commune du Temple. Bonjour Olivier Allard.
Bonjour.
Commune du Temple en première ligne hein, face à ces reprises de feu ces dernières heures, ce feu qui se réactive. Comment s'est passée la nuit? Quel point vous pouvez nous faire ce matin?
Alors écoutez, la nuit a été relativement calme, hein. Le mot calme étant à prendre évidemment avec des pincettes, mais on avait un secteur un petit peu critique, mais qui était en dehors donc de notre commune, hein, qui était à 8 km. Bien entendu, qui faisait partie du temple, mais quand même très loin des habitations. Alors hier, le feu était très actif hein, en pleine forêt, près d'un camp militaire, un camp de souche. Donc ça a été très très difficile pour les pompiers. Ils ont fait un excellent travail, hein, ils ont fixé le feu toute la journée. Ils ont attaqué le feu avec les canadaires. Et puis dans la nuit, donc ça a été fixé, c'est contenu. Donc un très gros travail. Donc on peut dire maintenant, hein, à votre antenne, hein, je peux dire que c'est très calme actuellement sur le temple. Alors c'est pas parce que c'est calme qu'il va rien se passer, hein, mais c'est vrai que les petites reprises, c'est assez facile de les enrayer avec les volontaires, avec les pompiers. Voilà, donc on peut dire que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le secteur est calme.
Et vous le disiez, il y a des sites particulièrement sensibles tout autour de votre commune, et notamment ce camp militaire de Souges qui abrite le 13e régiment de parachutistes, et hier qui était les flammes s'en approchaient, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire qu'il était menacé. Est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, cette inquiétude est levée?
Oui, tout à fait. Hein. Okay. Bon, le camp de Souges, bon, n'a jamais été menacé en tant que tel, hein, bien entendu. Alors effectivement, c'est un camp militaire qui est assez vaste, donc il y a eu quelques hectares de brûlés. Voilà, mais bon, tout a été sous contrôle. Toute la journée, c'était sous contrôle avec les sapeurs-pompiers qui ont fait un excellent travail, hein, qui ont cerné ce feu. Les canadaires qui ont été appelés, qui étaient présents, et sans les canadaires, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Bon, là, c'était le cas, et puis voilà, donc maintenant le feu est fixé, il est surveillé par des drones. Voilà, donc pour l'instant, je me répète, secteur calme.
Dernier mot très vite, monsieur le maire, sur la météo. On attend beaucoup de chaleur aujourd'hui, on l'a dit. Qu'en est-il du vent?
Alors pour l'instant, et comme tous les matins, je dirais, il n'y a pas de vent. Le vent se lève un petit peu plus tard. On a prévu un vent de sud-ouest. Il va faire très chaud. Donc on s'attend à des reprises, mais les pompiers sont là, les bénévoles sont là. Donc tout est sous contrôle.
Tout est sous contrôle. Voilà des nouvelles rassurantes ce matin. Merci beaucoup Olivier Allard, maire de la commune du Temple. Mais on comprend aussi que cette journée sera encore déterminante avec encore beaucoup de chaleur, un temps très sec et le vent qui est attendu encore une fois dans ce département de la Gironde. 7h13 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, nos mutuelles vont-elles nous coûter plus cher? Le gouvernement cherche des économies et va réduire les remboursements de plusieurs médicaments, de consultations chez le dentiste aussi par exemple. Plus d'1,5 milliard d'économies sur le dos des mutuelles qui vont devoir prendre le relais. Voilà le parti pris ce matin du président de la mutualité française, Éric Chenu, qui est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Les tarifs vont-ils forcément augmenter? Réponse dans un instant, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h16, merci de nous rejoindre sur RMC et sur RMC Story. Nos mutuelles vont-elles nous coûter plus cher? Bonjour Éric Chenu.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre ce matin en plateau. Vous êtes le président de la Mutualité Française. La ministre de la Santé était à votre place la semaine dernière pour nous annoncer le doublement des franchises, du plafond des franchises médicales, mais aussi des remboursements. Le gouvernement qui cherche des économies sur nos dépenses de santé. Mais cela va se faire sur le dos des mutuelles, c'est ça que vous nous dites ce matin?
Le gouvernement a rendu ses arbitrages la semaine dernière, décidant d'augmenter les tickets modérateurs, c'est-à-dire ce qu'il reste à la charge des assurés sociaux une fois que l'assurance maladie a payé. Sur les soins dentaires, ça sera 50% de la dépense. Pour les soins, pour les prothèses, pour les dispositifs médicaux également, pour les transports, ça sera 55%. Pour les médicaments, jusqu'à 95% sur un certain nombre de médicaments. Donc la totalité de ces transferts de dépenses de l'assurance maladie vers les complémentaires santé, c'est 1,5 milliard. 1,5 milliard d'économies pour l'assurance maladie, mais ce ne sont pas des économies pour le système de santé. Ces transferts se répercutent sur les complémentaires santé, sur les mutuelles. Et donc, comme nous avons l'obligation d'être à l'équilibre, évidemment, il y aura un impact pour les adhérents.
In fine, ce sont donc les patients qui forcément vont payer dans leur cotisation de mutuelle.
Transférer des dépenses, ce n'est pas réformer le système de santé. C'est ce que nous, on regrette, on conteste. On pense qu'il faut engager des réformes importantes, investir massivement sur la prévention pour éviter qu'on ait autant de personnes qui soient en affection de longue durée, pour qu'on leur permette d'être en meilleure santé le plus longtemps possible. Lutter contre la fraude, bien évidemment, et aussi contre les impacts de la financiarisation du système de santé où quelques acteurs captent de la valeur au détriment de l'intérêt général, au détriment des professionnels de santé, au détriment des assurés sociaux. Et puis, que l'on travaille aussi sur la pertinence des prescriptions. Par exemple, pourquoi est-ce qu'un médicament serait remboursé par l'assurance maladie à 5%? Soit ce médicament, il est utile et il faut qu'il soit prescrit et remboursé, soit il n'est pas utile et il ne faut pas le prescrire. Mais le rembourser à 5% n'a pas de sens pour nos concitoyens.
Surtout qu'il y a 1 euro de franchise médicale sur chaque boîte et que parfois le montant est inférieur, donc il n'est en réalité plus remboursé du tout. Alors, en réalité, le gouvernement dit on veut privilégier le remboursement de traitements innovants qui coûtent très cher, on veut aussi pouvoir financer l'hôpital, et on sait que l'hôpital a besoin d'argent. Vous comprenez quand même cette part de logique? À un moment où nos finances publiques sont dans l'état qu'on connaît, il faut faire des choix.
On est conscient de l'état des comptes sociaux, près de 20 milliards de déficit de l'assurance maladie cette année, donc c'est aussi pour ça que je vous disais, on est prêt à des réformes et à des réformes structurelles qui permettent de faire des économies pour l'assurance maladie, pour les complémentaires santé et surtout pour nos concitoyens, pour redéployer de l'argent sur les investissements qu'il faut faire sur l'innovation, sur l'hôpital, sur l'accès aux soins. Mais en quoi, aujourd'hui, moins rembourser les soins dentaires, c'est garantir l'accès aux soins de tous? Les soins dentaires, ce sont des soins essentiels, comme le reste.
Les soins dentaires qui étaient remboursés à 70% encore jusqu'en 2023, qui étaient passés à 60%, qui ont passé à 50%. Donc c'est un soin qui...
Et pour être très transparent avec vous, les décrets qui ont été transférés aux caisses de sécurité sociale hier et qui ont été rejetés à l'unanimité du Conseil de l'assurance maladie prévoient que le taux de remboursement pourra varier pour l'assurance maladie de 50 à 40%. Donc ça donne aussi l'idée de la trajectoire vers laquelle on va.
Le gouvernement dit négocier avec vous pour éviter aux patients de devoir payer leurs cotisations plus chères. Est-ce qu'on peut encore éviter des hausses de cotisations?
Oui, des possibilités existent si le gouvernement utilise le levier de la fiscalité, notamment pour baisser la fiscalité qui frappe les contrats de complémentaire santé, la taxe de solidarité additionnelle, la TSA, qui n'est rien d'autre qu'une TVA sur la santé.
Oui, il y a eu cette taxe sur les mutuelles qui avait été introduite dans le budget, qui était censée être temporaire, mais pour l'instant elle
reste. Exactement, donc tout dépendra des décisions qui seront prises, mais il serait non seulement... il faut évidemment que cette taxe supplémentaire ne soit pas reconduite, mais la taxe en temps normal qui est de 14%, c'est une anomalie européenne, hein, il faut le rappeler à nos auditeurs. Le pays qui taxe le plus les contrats de complémentaire santé, c'est l'Italie, c'est 2,5%. Nous, c'est 14,2 et cette année, c'était même 16,2. Donc, si on baissait un petit peu cette fiscalité, eh bien, ça permettrait d'absorber les transferts qui ont été décidés par le gouvernement.
Vous disiez les caisses d'assurance maladie ont rejeté les décrets préparés par le gouvernement. Ça va changer quelque chose?
Non. Malheureusement, non, mais ça dit quand même quelque chose. Quand l'ensemble des organisations syndicales, patronales, les associations de représentants des patients disent toutes à l'unanimité que agir sur le ticket modérateur, ce n'est pas réformer, ce n'est pas la bonne manière pour garantir l'accès aux soins de nos concitoyens, je pense que c'est quelque chose qui devrait être entendu et qui devrait nous amener collectivement à réfléchir, à engager les réformes qui sont nécessaires parce que le statu quo n'est pas possible. On a la démographie de notre pays, le pays vieillit, les dépenses de santé augmentent. Au premier semestre de cette année, les dépenses de santé ont augmenté de 6,3% pour les complémentaires santé. Donc c'est considérable.
Et on comprend que vous ne pouvez pas prendre ce matin devant nous le moindre engagement sur un gel des tarifs des mutuelles. Ça n'est pas possible.
Bah, avec une augmentation des dépenses cette année à 6,3% sur le premier semestre et avec des transferts de ce type-là, non, le gel des tarifs est évidemment impossible à envisager, sauf si des mesures, notamment fiscales ou de compensation, viennent permettre d'absorber une partie de ces transferts.
Merci beaucoup. Merci Eric Chenu d'être venu ce matin sur RMC.
Merci à vous.
Et RMC Story, je rappelle que vous êtes le président de la Mutualité française. Il est 7h22.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, et puis l'économie avec Manu Le Chip. Bonjour Manu.
Bonjour à tous.
On parle de la SNCF.
Mais oui, qui est devenue une véritable cash machine. Alors, grâce à qui et pourquoi faire?
Pas grâce à nous, non. À tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23 sur RMC, l'économie.
RMC.
Le chiffre du jour.
Le chiffre du jour avec Emmanuel Le Chypre. 1,2 milliard d'euros, ce sont les bénéfices réalisés par la SNCF au premier semestre.
Mais oui, il est loin le temps où la SNCF était une machine à fabriquer des pertes. Depuis 2021, elle enregistre profit sur profit et les résultats du premier semestre 2026 battent tous les records. Donc 1,2 milliard de bénéfices, c'était moins de 1 milliard au premier semestre 2025. Alors tous les indicateurs sont au vert ou presque, hein. Le chiffre d'affaires est en hausse, les marges augmentent, la dette diminue, la majorité des activités de la SNCF sont en croissance, la fréquentation des TGV, des TER, pas celle des intercités, parce que les intercités, évidemment, vous savez, à cause des nombreuses suppressions de trains pour cause de tempêtes cet hiver ou de canicules cet été, bah, ça n'a pas été l'activité la moins mouvementée. L'activité de Keolis aussi, vous savez, les transports urbains est en hausse. C'est plus difficile du côté de la logistique pour Geodis, pénalisé notamment par le contexte géopolitique et le ralentissement du fret maritime.
Alors, puisque la SNCF va si bien, est-ce qu'on peut espérer un geste sur le prix de nos billets de train?
Comme vous y allez. Non, c'est assez peu probable. C'est assez peu probable d'abord parce que la SNCF considère qu'elle fait déjà des efforts pour modérer la hausse de ses prix, notamment pour s'adapter à une concurrence plus forte sur le TGV. Et de fait, quand on regarde les prix des billets 2026, on est plutôt sur 1% d'augmentation pour les TGV cette année. C'est moins que l'inflation. Et de fait, quand on regarde les chiffres du premier semestre, on se rend compte que le chiffre d'affaires a augmenté, que le trafic, pardon, a plus augmenté que le chiffre d'affaires. Et puis surtout, les bénéfices de toutes les filiales du groupe sont plus que jamais dirigés vers la modernisation du réseau. Alors évidemment, ça fait aussi râler les cheminots qui se disent, mais on aimerait bien nous avoir notre part du gâteau avec des augmentations de salaire. Donc la conséquence de ces bons résultats, ce sera peut-être pas des billets moins chers, ce sera peut-être un peu plus de grève.
Aïe. Ah bah alors si en plus, merci du cadeau. Merci Emmanuel Le Chypre. On se retrouve après le journal de 8h. Tout de suite, on se plonge dans l'histoire avec l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier, qui nous emmène en Corée du Nord.
Hier, l'Agence internationale de l'énergie atomique a tiré la sonnette d'alarme à propos de la Corée du Nord. La Corée du Nord, elle y constate, je cite, une augmentation très inquiétante des capacités du pays à produire des armes nucléaires.
Eh oui, des armes qu'en fait, techniquement, la Corée du Nord sait déjà produire depuis 2017. Hein. Cette année-là, ce pays avait surpris tout le monde avec un essai nucléaire réussi. L'explosion équivalait à 16 fois celle de Hiroshima. Hiroshima, c'est la bombe atomique lâchée par les Américains sur le Japon en 1945. Alors évidemment, on ne laisse pas faire. Les Coréens sont sous sanction de l'ONU pour les empêcher de produire des bombes à grande échelle. Des sanctions qui ne sont pas respectées, puisqu'une chose est sûre, la production nucléaire coréenne tourne à plein régime.
Rappelons que la Corée du Nord est une des dictatures les plus meurtrières.
Oui, le mot est faible. Apolline, la Corée du Nord, c'est un pays fondé en 1948 par un homme qui s'appelait Kim Il-sung. Et à la base, c'était une dictature communiste comme il y en avait tant d'autres à l'époque. Sauf que ce régime va survivre à tout, y compris à l'effondrement de l'URSS. Petit à petit, il va se couper du monde en s'enfonçant dans la pauvreté avec un régime sanguinaire.
La Corée du Nord va surtout accumuler un retard économique dramatique.
Oui, au point de connaître une famine atroce dans les années 1990, hein, une époque effroyable où entre 500 000 et 2 millions de Coréens ont trouvé la mort. Ce qui s'est passé là-bas est presque inimaginable. Les gens se nourrissaient de rats, de grains de maïs récupérés dans des bouses de vaches. Il y a même eu beaucoup de cas de cannibalisme. Je le répète, c'était dans les années 90, donc il y a 30 ans.
La Corée du Nord, c'est aussi une dynastie de dictateurs.
Et oui, tous de la même famille. Cette famille, c'est la famille des Kim. Le fondateur, on l'a dit, c'était Kim Il-sung. Son fils, Kim Jong-il, lui a succédé en 1994. Et en 2011, c'est Kim Jong-un, le petit-fils du fondateur de la dynastie qui a pris le pouvoir. C'est l'actuel dirigeant. Il a aujourd'hui 42 ans.
Sa particularité, c'est qu'il est complètement paranoïaque.
Alors oui, son obsession, c'est de ne laisser aucune trace ADN là où il passe. Quand il est à l'étranger en voyage, il se déplace toujours avec ses propres toilettes. À l'hôtel, y compris dans les palaces, il dort dans un lit de camp qu'il apporte avec lui. Un avion cargo avec sa propre nourriture le suit partout. Et quand il est à un dîner officiel, avec un autre chef d'État par exemple, des officiers de sécurité récupèrent les assiettes, les verres, les couverts, tout ce qu'il a utilisé à la fin du repas, confisqué. Tout ça dans un même but, ne laisser aucune trace, ni cheveux, ni poils, ni salive.
À quoi ressemble le quotidien des Nord-Coréens?
En gros, vous pouvez rien faire du tout. C'est interdit d'aller chez un ami ou un membre de votre famille sans prévenir la police au préalable. Interdit aussi de fêter votre propre anniversaire, puisqu'on ne peut fêter que l'anniversaire de Kim Jong-un. Et si vous n'obéissez pas, naturellement, vous êtes envoyé dans un camp. Des camps, puisque d'après les rapports officiels, les conditions de détention dans les camps prisonniers nord-coréens sont parfois pires que celles des nazis. Un enfer sur Terre, Apolline.
L'historien d'Apolline Matard sur Chevalier, que vous retrouvez en podcast quand vous voulez sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Dans un instant, point météo complet, le journal de 7h30. Et puis après le journal, on va parler de l'économie en Gironde, l'impact des incendies. On sera en ligne avec un restaurateur, avec la CCI aussi, les entrepreneurs en première ligne qui subissent les conséquences directes. Et puis on vous attend au 32-16, vos témoignages. Je vous rappelle qu'RMC bouscule ses programmes. Antenne ouverte, standard ouvert jusqu'à midi exceptionnellement sur RMC pour vous donner la parole. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez été évacué, vous avez besoin d'aide, ou au contraire, vous voulez donner un coup de main. On vous attend au 32-16. Vous nous écrivez sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Clément Guitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Incendie toujours stabilisé en Gironde et la solidarité, elle s'organise. RMC est allé à la rencontre des bénévoles venus de toute la France soutenir et aider les pompiers. Après 42 000 hectares brûlés en Gironde, à quoi doit ressembler la forêt de demain face au changement climatique? Emmanuel Macron appelle à repenser les plantations. Plus 2% sur les cartables et les cahiers, la rentrée va coûter plus cher, mais les parents d'élèves s'y prennent plus tôt pour limiter la facture.
La nuit a donc été calme, incendie stabilisé toujours ce matin en Gironde, mais la bataille n'est pas complètement gagnée.
Pompiers, militaires, forces de l'ordre, mais aussi des dizaines de civils venus de toute la France, tous sont mobilisés au plus près du feu face aux reprises incessantes. Et ils racontent cette lutte, parfois quelques mètres seulement des flammes, à notre envoyé spécial RMC, Inès Zegloul.
À 200 mètres, le brasier, nuée d'avions au-dessus de nos têtes, pluie de cendres.
Bonjour! Je peux pas me charger tout seul, faut que ça soit avec une pompe.
Trace de suie sur le visage, comme indélébile, Arnaud est agriculteur. Il a abandonné ses vignes en Charente-Maritime.
J'ai l'impression qu'on manque de moyens par rapport à l'ampleur de la catastrophe, quoi, voilà. Ça m'ennuie de rester à rien faire, quoi, pendant que tout ça est en train de brûler. Pardon.
Mettez-vous plus par là, nous, notre entrée sera par là.
D'accord. Il y a un grand plan d'eau devant nous, et on va remplir la citerne, là, pour aller apporter ça aux pompiers. Je suis en train d'ouvrir la citerne pour qu'on puisse mettre le tuyau dedans pour la remplir d'eau. Vous avez un départ juste ici, là.
Un départ de feu?
Ouais, encore une fois.
Le bruit des pompes, incessant, l'eau coule inlassablement comme s'il n'y en avait jamais assez. Une équipe de charpentiers arrive sur site, le regard dépité.
Ça nous coûte cher d'être là. Je perds 550 euros par jour. C'est ce que je devrais facturer à la journée, si tu veux. Et ça, tu peux te le permettre, mais pas longtemps.
Allez, on démarre.
Là, on a fini de charger. Hop! Je remplis mon camion d'eau.
Sourire rapide d'un pompier, rassurant.
Heureusement qu'ils sont là.
Au milieu du chaos.
Top!
On reste en Gironde où la nuit a été calme après des reprises de feu. Hier, 14 au total, l'évacuation de 4000 touristes à la Cano. L'incendie est toujours stabilisé ce matin. 1500 pompiers sont mobilisés. Incendie qui a blessé certains d'entre eux. Jean-Wilfried Forquez, vous êtes en direct de l'Esch-Cap-Ferré pour RMC.
Oui, c'est ça, avec le lieutenant-colonel David Brunner. Lieutenant-colonel, vous payez un lourd tribut avec des blessés sur le front des incendies ici.
Oui, c'est plus d'une centaine de blessés cet incendie, essentiellement de la petite traumatologie, également des des intoxications dues aux fumées, hein, vous voyez, on y est encore aujourd'hui. Et puis, un blessé un peu plus sérieux suite à l'explosion d'une bouteille de gaz la semaine dernière.
Et malheureusement, depuis le début de l'année, des victimes également, notamment ici, il y a quelques jours.
Il y a quelques jours, on déplore la perte d'Anthony et Wilfried sur un feu de forêt, deux jeunes hommes pleins de promesses qui ont malheureusement perdu la vie en accomplissant leur devoir.
Voilà, des victimes, des blessés, des troubles psychologiques, évidemment, parce que le combat, c'est un combat de tous les instants pour les 1500 pompiers qui sont mobilisés ici, en Gironde.
Jean-Wilfried Forquès, en direct de l'Age Cap Ferret.
42 000 hectares hein, brûlés en une semaine maintenant en Gironde. Et maintenant, que faire de la forêt ?
Emmanuel Macron veut replanter et rebâtir une forêt différente, mieux adaptée aux nouvelles conditions climatiques. Mais la Fédération des forestiers privés assure que cette transformation est déjà engagée malgré des aides suspendues et des normes qu'il juge contradictoires. Cette forêt en Gironde, Lucas Laubert, est particulièrement sensible au risque d'incendie. Hein.
Oui, c'est une forêt quasiment en monoculture. Imaginez ces pins maritimes tous bien alignés, des résineux qui peuvent parfois brûler plus vite que des feuillus. Alors faut-il les remplacer ? Pas forcément. Pour Sylvain Delzon, directeur de recherche à l'Institut INRAE, la priorité c'est d'adapter la forêt à la sécheresse, principale cause des incendies selon lui.
Il faut plutôt jouer sur l'adaptation de la plantation, mettre moins d'arbres à l'hectare, moins d'arbres consommeront moins d'eau et la sécheresse commencera plus tard.
Il faut également rebâtir la forêt de sorte que le feu puisse progresser moins vite, explique-t-il.
Il va falloir des feux plus nombreux, plus larges, voire même insérer des parcelles agricoles entre les parcelles boisées.
Pour rebâtir la forêt, il faut de l'argent. Or, les financements publics pour le renouvellement forestier dans le cadre du plan France Nation Verte ont été suspendus début juin, dénonce Anne Dunoyer, vice-présidente de la Fédération de forestiers privés, France Silva.
Choisir comment renouveler sa forêt, ça prend du temps. Et quand le guichet se ferme brutalement, ce temps, il n'est pas respecté. On a besoin de stabilité de la politique forestière pour que les forêts puissent être gérées durablement.
Elle prévient, replanter ces milliers d'hectares prendra du temps. Ce n'est qu'après un état des lieux précis des dégâts que l'on pourra définir les actions les plus adaptées, conclut-elle.
Engie va débloquer 25 millions d'euros à la reconstruction des forêts. La ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, a rappelé mardi dernier que l'État augmenterait de 20 millions d'euros les fonds alloués à l'Office national des forêts cette année. Trafic TGV toujours fortement perturbé aujourd'hui au sud de Bordeaux. Tous les trains au départ de Paris auront Bordeaux comme terminus, sauf ceux qui prennent la direction de Toulouse et de Tarbes. Un homme de 23 ans mis en examen et placé en détention provisoire dans le Var, soupçonné d'une dizaine de départs de feu dans le secteur de Cotignac. L'incendie parti il y a 8 jours qui a parcouru 4800 hectares est désormais fixé.
Et je vous rappelle, standard ouvert exceptionnellement aujourd'hui sur RMC jusqu'à midi pour tous vos témoignages, que vous soyez dans le Var ou en Gironde, vous avez vécu au plus près ces incendies, vous avez besoin d'aide ou au contraire vous voulez proposer un coup de main, on vous attend, vous avez la parole jusqu'à midi, 32-16, vos messages c'est sur le WhatsApp RMC 0612-424-424. Il est 7h36 et on en vient à cette macabre découverte dans le Vaucluse.
C'est le père de famille qui a fait cette découverte, des ossements de 4 nourrissons et le corps en décomposition d'un nouveau-né. Lundi soir, son domicile à Orange, alors que sa femme était à l'hôpital après avoir accouché dimanche d'un petit garçon en bonne santé. Dans le quartier Anna Jojard, les habitants sont sous le choc.
C'est dans un immeuble du centre-ville que vivait ce couple avec ses deux enfants âgés de 8 et 9 ans.
C'est déjà normaux, comme vous et moi, très sympathique.
Les voisins ont appris le drame dans la presse hier matin.
Ça fait bizarre, des enfants juste à côté de chez vous, on s'attend pas à ça.
Ça fait froid dans le dos, hein. C'est passé souvent, des fois avec une poussette vide, promener, elle allait au bout, elle revenait, c'est gens discrets. Hein.
C'est le compagnon qui a trouvé les restes des nourrissons chez lui, troublé par l'accouchement soudain de sa femme dont il ignorait la grossesse. Julie connaît bien le couple.
Est-ce que vous saviez qu'elle était enceinte ? Est-ce que ça se voyait ?
Non, j'ai été choquée quand même de savoir ça.
Alors cette femme a-t-elle pu cacher d'autres grossesses dans le passé ? L'enquête devra le déterminer, mais ce n'est pas impossible, explique le gynécologue Israël Nizan.
Une femme qui ne se sait pas enceinte, qui est la définition du déni de grossesse, modifie involontairement sa silhouette pour que celle-ci ne change pas. C'est une pathologie psychique, on ne peut pas jouer au déni de grossesse.
Cette mère de famille âgée de 32 ans est toujours hospitalisée, elle n'a pas encore été entendue par les enquêteurs.
Il est 7h38 sur RMC. La rentrée, c'est dans quelques semaines et la facture s'annonce déjà salée.
Les fournitures scolaires coûtent 2% plus cher que cette année. Chiffre de l'association Que Choisir Ensemble dévoilé début juillet. Il est conseillé de s'y prendre plus tôt pour profiter des meilleurs prix. Et visiblement, Martin Lange, les parents d'élèves l'ont bien compris.
Solène a un fils qui rentre en 6e. Depuis 48 heures, elle arpente les grandes surfaces pour trouver le cahier.
Il fallait que ça soit un 24, 32, 240 pages.
Comme chaque année, elle achète ses fournitures bien avant la rentrée, un choix stratégique.
On va aux endroits où il y a des promotions, donc effectivement c'est moins cher et il y a moins de monde parce qu'au mois de septembre, on a l'impression d'être dans une fourmilière, c'est très désagréable.
Avec ses deux filles, Sandrine aussi flaire les bonnes affaires.
Les troisièmes cahiers offerts ou ce genre de choses, en général, c'est vrai que c'est plus intéressant à cette période.
Car le budget rentrée scolaire pèse lourd, plusieurs centaines d'euros par enfant selon certains parents. Avec ses trois garçons, Pierre-Cyril tente de réduire la facture.
On essaye de réutiliser un petit peu ce qui est encore en bon état des années précédentes. Le petit plein que j'ai fait aujourd'hui, j'ai bénéficié d'une offre 100% remboursée sur certains produits.
Selon l'association de consommateurs, Que Choisir Ensemble, la fin du mois de juillet est la période idéale pour acheter les fournitures. Grégory Carré, directeur de l'Observatoire de la Consommation.
C'est le bon moment pour deux raisons. Un, vous avez une offre qui est maintenant complètement disponible en magasin. Et en termes de prix, c'est effectivement à ce moment de l'année que les prix sont les plus bas.
Certaines enseignes peuvent continuer les promotions à la fin de l'été, mais les réassorts ne sont pas garantis, ce qui peut vous contraindre à acheter au prix fort.
Le quintet du jour, c'est à Enghien à 19h.
Le pronostic de la Dream Team, leur favori le 9, le outsider et le 14.
Clément Gouitz pour le journal 7h39, on va retourner au 32-16. C'est Mickaël qui est avec nous, bonjour Mickaël.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur RMC, merci d'avoir composé le 32-16. Je vois que vous êtes en Gironde, sur le front de l'incendie, puisque vous faites partie de ces volontaires, de ces bénévoles qui viennent en aide aux pompiers, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui, moi, j'habite à côté de Bordeaux, mais je suis artisan sur l'Esch Cap Ferré, donc voilà.
Artisan maçon, c'est ça?
Oui, maçon carreleur.
Et qu'est-ce que vous faites pour les pompiers?
On les aide comme on peut. On éteint les flammèches en bordure de route. On leur donne de l'eau sur les grands feux. Quand il manque d'eau, on a des réserves nous sur notre camion et on pompe de l'eau dans leur camion pour qu'ils puissent se ravitailler.
Vous ravitaillez en eau, vous avez une citerne sur votre camion, c'est ça?
On a trois citernes sur le camion, ouais, donc avec une motopompe et on leur envoie de l'eau dans leur camion pour qu'ils puissent se ravitailler plus vite.
Et depuis le début, c'est tous les jours, la nuit aussi?
Non, pas la nuit. La nuit, non, les gens, je pense que les gens, enfin moi en tout cas, j'arrête la nuit, mais le matin, tôt, hein, là j'y arrive et on part le soir vers 19h, quelque chose comme ça, et on les aide toute la journée, quoi.
Ouais, cette aide très précieuse hein, que les pompiers saluent d'ailleurs au quotidien parce que on voit aussi les agriculteurs qui viennent ravitailler en eau les camions de pompiers. Merci pour votre témoignage, ouais. Mickaël. Le 32-16 est ouvert, standard ouvert aujourd'hui toute la matinée sur RMC, exceptionnellement jusqu'à midi pour tous vos témoignages. Si comme Mickaël, vous êtes volontaire sur le front des incendies, si vous voulez donner un coup de main aussi, vous faites partie des évacués et que vous avez besoin d'aide, là aussi l'antenne vous est ouverte. 32-16, vos messages. C'est au 06 12 424 424 sur WhatsApp.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h41 et dans un instant, le tourisme totalement à l'arrêt et plus largement toute l'économie de la Gironde inquiète des conséquences de ces incendies. On sera en ligne avec un restaurateur, également avec le président de la CCI du département. 200 000 emplois sont en jeu selon lui. A tout de suite.
RMC. Apolline Matin. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Bon réveil, vous êtes sur RMC, il est 7h45. Le tourisme à l'arrêt, toute l'économie de la Gironde impactée. Les réponses de l'État sont-elles suffisantes? Le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, était ici même hier pour annoncer la réponse de l'État. Deux invités ce matin pour lui répondre. Bonjour Patrick Seguin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous présidez la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, Gironde. Restez avec nous. D'abord, un témoignage avec vous, Thierry Leblanc. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes propriétaire d'un restaurant au Cap Ferré qui s'appelle Le Wharf, propriétaire aussi d'une cave à vin. Pour vous, tout s'est arrêté depuis l'évacuation. Où en êtes-vous ce matin? Vous avez des salariés, ils sont au chômage partiel, c'est ça?
Exactement. Là, on a des salariés qui sont en chômage partiel. Et on n'a pas de visibilité sur une date de reprise en tous les cas.
Ça fait maintenant presque une semaine que tout est à l'arrêt pour vous. Est-ce que vous avez déjà chiffré les pertes que ça peut représenter?
Alors, on n'a pas chiffré exactement les pertes. On sait qu'elles seront très importantes. D'abord parce que les saisons sont excessivement courtes. Hein. On fait notre saison, la pleine saison, la haute saison, et à peu près du 20 juillet à fin août, qui représente à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Donc vous imaginez ce que ça peut représenter sur un compte de résultat. Et ce qui est d'autant plus déplorable, c'est qu'il y a tout un travail en amont qui est réalisé pour faire ces saisons, qui sont pas perceptibles à l'instant T, quoi. Donc c'est ça qui est compliqué à chiffrer aujourd'hui.
Il y a cette prise en charge par l'État du chômage partiel, ça va suffire à sauver votre entreprise?
C'est une bonne chose et heureusement qu'on a ça, mais ça suffira pas. Pourquoi? Parce que les enjeux sont très importants, les investissements pour faire une saison sont très importants et le chômage partiel n'est qu'une réponse partielle à notre problématique aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous attendez? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui?
On a besoin d'aide de l'État, ça c'est sûr, si on veut que nos établissements perdurent, en tous les cas. Je pense qu'on peut imaginer aussi, comme on a pu l'avoir avec la Covid, c'est-à-dire un PGE, parce qu'on a fait des investissements...
Un prêt garanti par l'État?
Par exemple, ça pourrait être le cas, parce qu'on a acheté du stock, par exemple dans la cave à vin, vous achetez du stock pour la saison, et ce stock, vous n'allez pas pouvoir l'écouler, parce que ça représente des quantités assez importantes sur une période.
C'est-à-dire que même si ça rouvrait dans les quelques jours qui viennent, en espérant que ce feu qui est stabilisé soit finalement fixé, que vous êtes finalement en capacité de retourner ouvrir votre boutique, vous récupérez pas ce chiffre. Il y aura forcément un impact.
Oui, on a eu. Exactement, parce qu'on a une activité où le chiffre d'affaires n'est pas reportable, c'est-à-dire que ce qui est perdu est perdu. Les gens ne vont pas venir manger deux fois plus au restaurant, ne vont pas acheter deux fois plus de bouteilles de vin ou d'alcool. Quand vous avez un chantier dans le bâtiment, ben c'est reportable. Là, ce n'est pas reportable, donc c'est une perte sèche.
Merci pour votre témoignage ce matin, Thierry Leblanc, donc propriétaire du restaurant Le Wharf au Cap Ferret. On est donc avec Patrick Séguin, qui préside la Chambre de commerce et d'industrie. Le gouvernement, Patrick Séguin, a chiffré à 13 000 entreprises impactées dans la zone. Vous dites que c'est beaucoup plus. Vous dites que ça va jusqu'à 200 000 emplois qui sont impactés en Gironde, c'est ça?
Oui, tout à fait. On a calculé sur notre plateforme de la cellule de crise où nous avons un numéro vert pour que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, puissent appeler. C'est le 30-06. Et sur ce 30-06, on a calculé avec l'ensemble des professions. L'impact correspond à 39 000 entreprises impactées directement ou indirectement. En fait, il faut faire attention à ce que les entreprises qui sont impactées directement, c'est celles qui ont été évacuées. Donc là, elles peuvent pas travailler et leurs collaborateurs doivent rester à la maison. Et puis, il y a les entreprises qui travaillent en sous-traitant, en co-traitant, en fournisseur, etc. pour ces mêmes entreprises qui, eux aussi, sont arrêtées, même s'ils ne sont pas évacués. Donc, le calcul sur l'économie gironde, c'est 39 000 entreprises impactées, 200 000 emplois directement ou indirectement impactés.
Aujourd'hui, les mesures annoncées par le gouvernement, et notamment le chômage partiel. Ce chômage partiel, il est ouvert uniquement aux entreprises qui sont dans la zone évacuée ou également au-delà. On pense par exemple au secteur du tourisme qui va souffrir même au-delà de la zone évacuée.
Alors effectivement, le chômage partiel, c'est de toute façon quelque chose qui existait déjà, donc qui est mis en application. Ça concerne aussi les entreprises qui ne sont pas directement évacuées, mais qui doivent faire une déclaration, et on les aide pour ça, pour leur personnel qui ne peut pas forcément travailler. Mais je rappelle que cette procédure prend en charge une partie des salaires, mais comme le disait Thierry tout à l'heure, ça ne prend pas en compte la perte d'exploitation et pour certaines entreprises, il y a des charges à payer à la fin du mois et il n'y a pas de chiffre d'affaires en face.
Alors, il y a aussi des reports de charges qui sont évoqués par le gouvernement. Une nouvelle réunion est organisée demain à Bercy. Quelle réponse vous attendez encore de la part du gouvernement?
Bien écoutez, ce que l'on attend, c'est ce qui a été évoqué par justement tout à l'heure, qui est une bonne idée, je pense, c'est que est-ce qu'on peut réfléchir à un PGE incendie, parce que le PGE du Covid avait bien marché. Je rappelle que très peu de PGE n'ont pas été remboursés, c'est moins de 1%. Donc les PGE ont fait leur effet lors du Covid.
Mais c'est prêt garanti par l'État qui avait été mis en place pendant le Covid. Est-ce que les assureurs ont aussi un rôle à jouer là-dedans? Est-ce qu'il peut y avoir une prise en charge pour les pertes d'exploitation dont vous parliez?
Oui, tout à fait. Alors, tout dépend des contrats. Il y a des contrats d'assurance qui intègrent les pertes d'exploitation, mais il y en a d'autres qui n'ont pas d'assurance pertes d'exploitation. Donc, l'assureur n'est pas obligé, s'il n'y a pas de contrat, de rembourser ou de participer. Et là, on demande une solidarité également au niveau des assureurs. Et j'espère que toutes les compagnies feront un effort pour les entreprises qui n'ont pas forcément de conditions favorables dans leur contrat.
Ce que vous dites, c'est qu'il y aura forcément de la casse à la fin au sein du monde économique.
Ouais. C'est un tsunami inimaginable. Il y a encore quelques jours avant le 22 juillet. Donc, quand on va sur le terrain, et j'y vais tous les jours, parce qu'on fait aussi, on participe aussi pour faire des pare-feux avec la DFCI et le SDIS sur le terrain, quand on est sur place, on n'imagine pas ce que ça représente dans les villages et les villes.
Un tsunami, vous nous dites ce matin, Patrick Seguin, merci d'avoir été en direct avec nous, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Et puis je vous rappelle cette opération spéciale ce matin, RMC qui bouscule ses programmes jusqu'à midi, standard ouvert, antenne ouverte, le 32-16 pour que vous puissiez témoigner. Justement, tiens, si vous êtes chef d'entreprise impacté de près ou de loin par ces incendies, parce que on l'a compris, c'est bien en dehors de la zone que beaucoup d'entreprises sont impactées. Si au contraire vous voulez donner un coup de main, on fait aussi le jeu de la solidarité ce matin sur RMC. On vous attend au 32-16 et sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Antenne ouverte jusqu'à midi. Il est 7h53.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, on part dans vos villes à la rencontre des maires.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Bonus RMC, le bonus de Charlène Villemer et cette nouvelle version du hit d'Elena, l'ancienne candidate de la Starac.
Moi je reste, dis-moi pourquoi je reste, avec mauvais garçon.
Plus de 70 millions d'écoutes sur la plateforme Spotify, c'est avec Mauvais Garçon qu'Elena cartonne depuis 2 ans. Et depuis le début de l'été, elle multiplie les festivals et les scènes avec ce même titre, mais version électro. Et uniquement en live sur le réseau X, les fans multiplient les appels. Il nous faut cette version sur les plateformes. Pas plus tard que dimanche dernier en Belgique, Elena a trouvé une solution. Une solution plutôt artisanale. Elle a partagé le remix avec son téléphone. Après plusieurs tentatives, certains chanceux ont réussi à la télécharger. Reste à savoir maintenant ce que la chanteuse nous réserve pour les prochains mois. Elle vient de réaliser également un remix avec Moziman. On écoute encore un dernier extrait.
Tout a changé, rien n'a changé. C'est toujours la même fille que tu connais, que tu connais.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
7h55 sur RMC, RMC Story. On continue notre tour de France des maires. Nous sommes retournés à la rencontre des maires élus ou réélus au mois de mars dernier. Et ce matin, la parole aux femmes maires. On est loin de la parité, hein. Même après les élections de cette année, 23% des maires seulement sont des femmes. Exemple à Rives de Gière, 15 000 habitants entre Lyon et Saint-Étienne. C'est la première fois dans l'histoire de cette ville qu'une femme est élue maire, même si vous allez voir qu'il faut encore convaincre un certain nombre d'habitants. Reportage sur place pour RMC, Vincent Chevalier.
Bien, ouais. Félicitations encore.
Eh ben merci, merci beaucoup.
Difficile d'avancer normalement dans les allées du marché. Tous les deux pas, des administrés interpellent leur nouvelle maire, Séverine Reynaud.
Oui, bonjour. Donc ça va ?
Oui, bon.
Des habitants plutôt ravis de ce changement.
Nous, on n'attendait que ça.
Rosine habite Rives de Gier depuis 1957.
Les femmes, on a quand même une autre vision. Et je pense que ça avance plus que les hommes, parce que c'est vrai, on voit plusieurs choses, nous. Et moi, je pense que ça va être positif.
Les vents, elle est bien comme ça.
Oui, et puis il fait bon. Oui,
voilà. Ouais, on est bien là. Ouais. Merci beaucoup.
C'est une question de personnalité, mais il y a aussi, je pense, les émotions et le côté émotionnel d'une femme qui rentre en jeu. Ouais, un petit peu plus d'écoute, je pense.
Souvent, elles ont un point de vue différent. L'organisation n'est pas forcément la même. Ils ont tendance peut-être à être plus organisés.
Des commentaires élogieux mélangés à des remarques parfois sexistes pendant la campagne de Séverine Reynaud.
On a des attaques que les hommes en politique n'ont pas.
enfin, des attaques en dessous de la ceinture qui étaient assez violentes, que peut-être j'aurais été un homme, je n'aurais pas eu.
Au-delà des remarques, il y a les doutes, notamment sur la légitimité des femmes. Attablée à une terrasse devant sa tasse de café vide, René, 80 ans, fait partie de ces sceptiques.
C'est pas que j'ai quelque chose contre les femmes, mais j'y comprends. Moi, je dis qu'une femme aux hautes responsabilités, ça porte sa place. Elle n'est pas technique.
Est-ce que les hommes, ils ont amélioré la situation ?
Pas vraiment, vraiment, vraiment.
À 55 ans, mère de 4 enfants, celle qui était déjà vice-présidente du département de la Loire, a appris depuis longtemps à batailler pour s'imposer, jusqu'à devenir la première femme maire de la ville. Une vraie fierté, malgré les difficultés.
Ah, il faut être bien accroché, oui.
En fait, je suis une femme, donc j'ai envie aussi que des femmes suivent l'exemple et osent. Comment on ose ? Et là, c'était la première fois qu'il y avait une femme maire dans une commune qui est conséquente. Hein, pour la Loire, c'est sur la métropole, c'est la quatrième ville de la métropole, donc c'est quand même important, et j'avais beaucoup de témoignages par contre pendant la campagne, et je les ai eus après encore plus, de femmes qui m'ont dit on a suivi ton exemple, on s'est engagé, et ça m'a porté. Je me suis dit en fait, au-delà de ma ville, que j'ai envie de modifier, j'ai envie de faire rayonner, Je porte un message d'espoir aussi pour des femmes. Et ça, c'est important pour moi.
Une bataille qu'elle a menée jusque dans la composition de son équipe. Sur ses 9 adjoints, 4 sont des femmes. Et dans la vallée du Gier, 6 sont désormais maires sur les 22 communes.
Reportage RMC signé Vincent Chevalier. On continue ce Tour de France demain. Dans un instant, la météo et le journal de 8h.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.